Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de la balado « Comprendre le financement climatique » du Service des délégués commerciaux du Canada. Mon nom est Lynne Poulin-Larivière et je suis déléguée commerciale responsable du développement des affaires en financement climatique à Affaires mondiales Canada. Je suis heureuse d'accueillir avec nous aujourd'hui Sean Whittaker. Sean est le spécialiste principal pour les énergies renouvelables depuis près de 10 ans à la Société financière internationale, ce qu'on appelle dans le jargon IFC, c'est-à-dire la branche pour le secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Son travail porte principalement sur la diligence raisonnable pour les investissements éoliens à IFC, la co-gestion du programme de développement éolien offshore du groupe de la Banque mondiale et l'ouverture de nouvelles lignes d'affaires pour IFC, par exemple, celle pour les énergies renouvelables pour les mines hors réseau et l'augmentation des investissements éoliens en Afrique. Dans le passé, Sean a occupé le poste de vice-président de l'Association canadienne de l'énergie éolienne, CANWIA, pendant une période qui a été marquée par une forte croissance. Il possède également de l'expérience en consultation, ce qui lui a permis de travailler sur le terrain à Madagascar, au Cameroun, mais aussi au Népal. Il est un ingénieur mécanique diplômé de l'Université de Queens de Kingston. Bienvenue à la balado, Sean.
Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui.
Également. Écoute, c'est un plaisir surtout d'accueillir un expert en énergie renouvelable à la balado. Je dois t'avouer que j'aimerais débuter l'entretien en vous demandant de nous expliquer pourquoi l'énergie éolienne est si importante à la IFC et au sein du groupe de la Banque mondiale.
Donc, ça fait assez longtemps qu'on fait des investissements dans les projets éoliennes. On fait notre premier investissement, c'était en 2009, quelque chose comme ça. Puis depuis, on a fait beaucoup des investissements dans les projets éoliennes dans les pays en voie de développement. On a financé jusqu'à présent, je pense que c'est 48 projets dans une vingtaine de pays. Puis dans la plupart de ces pays, les projets qu'on a financés, c'était les premiers dans ces pays-là. Et depuis, comme dans le cas de Mexique, on a financé des projets il y a 10 ans. Depuis, il y a beaucoup d'autres investissements qui ont eu lieu avec le financement des banques commerciales. Et c'est ça un peu notre but dans la vie, c'est de financer les premiers projets, puis ensuite, ce sont les banques commerciales qui arrivent pour faire le financement de l'industrie. Donc, on continue. Jusqu'à maintenant, c'est, comme j'ai dit, 48 projets, environ 4,8 gigawatts de puissance installée. Donc, c'est un volet dans lequel on est à l'aise. On connaît bien la technologie éolienne. On a des bonnes relations avec les développeurs de projets et avec les manufacturiers. Donc, et pour nous, c'est pour les projets dans lesquels pour les pays dans lesquels les projets sont situés, pour eux, c'est une grande opportunité du côté économique parce que il y a un bon investissement des banques et de l'industrie dans le pays. C'est super du côté environnemental, certainement, parce que c'est pour la lutte contre le changement climatique d'avoir plus de sources d'énergie renouvelable, c'est un grand bénéfice pour le pays. Et aussi du côté énergétique, un des grands avantages avec l'éolienne, c'est qu'on peut les installer assez rapidement. Donc, pour un pays en voie de développement qui souhaite augmenter sa capacité énergétique, l'éolienne présente beaucoup d'avantages. Donc, pour les pays dans lesquels on investit, c'est une grande opportunité pour nous en tant qu'investisseurs qui a comme but de faire la promotion de ces types de technologies. C'est une grande opportunité aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite continuer et j'espère bien qu'on va même augmenter nos investissements dans les projets éoliennes dans les années à venir.
Parfait. Mais avec toute cette expérience-là, puis celle que vous avez acquise en la livraison de projets à l'international, est-ce que vous pouvez me parler un peu des impacts mesurés ou que vous avez personnellement observés au sein des communautés locales?
Oui. Oui, c'est... Je peux parler un peu de quelques exemples. Un des exemples récents, c'était en Jamaïque. On a financé la construction d'un projet de 36 mégawatts. Et c'était 3 ans. Puis on a bénéficié aussi d'une certaine partie du financement du gouvernement du Canada. Donc, au titre de blended finance, qui a permis au projet de voir le jour. Puis, c'était intéressant. Moi, j'ai visité le site avant la construction pour faire le due diligence et pour parler avec la communauté. Et à l'époque, il y avait très peu là. Enfin, il y avait très peu d'activités économiques. Et 2 ans plus tard, après que le projet a été mis en marche, j'ai visité le site pour voir les conditions du projet, pour rencontrer les gens du communauté. Puis j'ai vu immédiatement qu'il y avait un grand impact du côté économique. Il y avait des projets communautaires qui ont été financés par les bénéfices de ce projet, qui ont eu des retombées économiques importantes pour la communauté. Il y avait des programmes d'éducation qui n'étaient pas là avant. Il y avait comme une quinzaine, une vingtaine de personnes qui travaillaient à temps plein sur le chantier pour assurer l'entretien des éoliennes. Donc, immédiatement, on a vu une transformation assez importante. Donc, et dans le cas d'un autre projet qu'on a financé en Afrique du Sud, c'est un peu la même chose. C'est dans une zone qui s'appelle le Eastern Cape. Et il y avait très peu d'activités là du côté économique. Je me souviens quand j'ai visité la ville qui était le plus proche du projet. Les rues n'étaient pas goudronnées, il y avait très peu d'activités économiques. Et quand j'ai visité le projet, après 2 ans après construction, la rue était goudronnée, il y avait des organisations communautaires qui travaillaient sur les différentes initiatives économiques et sociales. Et donc, en Afrique du Sud, c'était une partie importante de leur processus, c'est d'assurer qu'il y avait des retombées économiques pour la communauté locale. Et il a su un grand succès avec cette approche. Donc, c'est super d'avoir pour moi, enfin, d'aller visiter ces sites et de voir immédiatement les bénéfices. Je trouve ça très encourageant, puis c'est un aspect très positif de mon travail.
Oui, c'est vraiment motivant d'apprendre qu'il existe plusieurs projets qui ont été, je réutilise vos mots, transformationnels au sein des communautés. Et je sais, par exemple, qu'il existe plusieurs programmes chez vous qui peuvent aider à financer des projets éoliens. Est-ce que vous pourriez me donner un aperçu de l'initiative qui s'appelle Scaling Wind?
Oui, Scaling Wind, c'est basé sur un programme qu'on a lancé avec la Banque mondiale il y a 3 ans ou 4 ans. Et l'approche là, c'était d'avoir des engagements avec les gouvernements, surtout en Afrique, pour mettre en place des processus compétitifs pour avoir des projets de grande échelle solaire. Et enfin, le base de tout ça, c'était le bankability, c'était
les projets bancables qu'on appelle.
Exact. Donc on a élaboré au sein de Scaling Solar des documents et des processus qui permettent d'assurer des projets bancables qui vont attirer des financiers, des développeurs qui sont capables de mettre en place des projets d'une meilleure pratique internationale et sur le, sur le côté technique et aussi social et environnemental. Donc, ce programme a eu un grand succès. On a fait l'implémentation de Scaling Solar en Zambie, en Côte d'Ivoire et plus au Sénégal et ailleurs. Donc, ce qu'on a fait avec Scaling Wind, c'est qu'on a transformé le processus et les documents pour les projets éoliennes. Et je dirais 90% des éléments de base d'un projet bancable sont similaires pour un projet solaire que pour un projet éolien. Donc, on a fait quelques ajustements du côté technique et donc on est presque prêt à le lancer. On va le lancer d'ici quelques semaines ou cette année-ci. Et donc, on va chercher des engagements avec les gouvernements, surtout en Afrique, pour voir si on peut travailler avec eux pour qu'ils puissent bénéficier des avantages des installations éoliennes. Parce qu'il faut dire que même si le secteur a une croissance du secteur récemment, c'est impressionnant. C'est l'énergie éolienne compte parmi les nouvelles sources de génération les plus importantes du monde entier. En Afrique, c'est pas la même chose. C'est qu'il y a moins de 1% de la capacité installée mondiale en éolienne qui se trouve en Afrique. Donc, on pourrait dire que le continent, il y a beaucoup à faire pour que le continent bénéficie de cette technologie. Donc, c'est pour cela que on est très optimiste pour le Scaling Wind.
Pour en faire plus, si je comprends bien, puis particulièrement en Afrique. Malgré tout le travail qui est accompli à l'international, il y a malheureusement toujours des sceptiques. Si on pouvait, avec vous, déboulonner les principaux mythes qui entourent l'énergie éolienne, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez mettre au clair en tant qu'expert?
Certainement, un des mythes qui persiste du côté de l'éolienne, se tourne autour de cette question de variabilité et le comment on dit le reliability. Donc il y a des gens et surtout des gens qui sont pas qui connaissent pas comment de quoi il s'agit l'opération d'un réseau. Mm-hmm. Fiable, ils disent que avec l'éolienne, il y a des fois que le vent souffle, il y a des fois qu'il ne souffle pas. On ne sait jamais si d'un jour à l'autre, si on va avoir une génération à partir d'une centrale éolienne. Ils disent à partir de ça, on ne peut pas se fier à l'énergie éolienne pour avoir un réseau qui est fiable. Mm-hmm. Et enfin, c'est que face à ça, on peut dire que, écoute, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille avec les énergies éoliennes. Il y a plusieurs pays du monde là où l'énergie éolienne fournit ou satisfait plus de 20% de leurs besoins énergétiques. Au Danemark, sont à 55% taux de pénétration de l'éolienne. Et ailleurs en Europe, c'est la même chose. Donc, c'est parce qu'on peut, d'abord, on sait que on peut prévoir assez facilement le niveau de génération d'une centrale éolienne un jour à l'avance, avec un taux d'erreur de plus ou moins 10%. Okay. Et même avec une heure d'avance, la certitude, c'est plus ou moins 2 ou 3%. Donc, on peut prévoir le niveau de génération et aussi si on a des centrales éoliennes qui sont sur une grande superficie, bon, le vent ne s'arrête jamais à tous les endroits à la fois. Donc, on a un certain effet là où le niveau sur toutes les centrales éoliennes, sur toute la superficie, c'est assez stable. Donc, et comme on voit au Canada, c'est au Québec, au Québec et en Ontario, mm-hmm. eux, ils ont des installations très importantes, l'éolienne, et si on leur demande, si on demande à Hydro-Québec, est-ce que l'éolienne est fiable, ils vont dire oui, c'est, ça fait partie de notre système, c'est très fiable, mais il faut mettre en place les mesures où on, je sais pas, les systèmes pour gérer cette variabilité, mais si, si on suit les meilleures pratiques, c'est, ça, ça peut même augmenter la fiabilité du réseau.
Parfait. Donc, votre expérience vous prouve, vous démontre que la technologie est fiable, mais si on pense à l'avenir, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines applications que vous considérez comme innovantes propre au domaine de l'éolienne, puis peut-être nous donner un aperçu de à quoi ça pourrait ressembler dans les prochaines années.
Oui, oui, je peux dire que, enfin, ça fait des, pour moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je travaille dans le secteur de l'éolienne,
ouais.
Donc c'est assez longtemps, donc, et c'est, on voit que la technologie, c'est plutôt une évolution au lieu d'une révolution, okay. Mais depuis 3 ou 4 ans, je peux dire que il y a une révolution du côté du secteur offshore.
Okay.
Et donc pour les éoliennes en mer ou les éoliennes offshore, bon, ça existe depuis longtemps. La première installation a été faite en 91 au Danemark, mais pendant des années et des années, c'était beaucoup plus les installations offshore était beaucoup plus cher par rapport aux installations onshore. Mm-hmm. Et même il y a 5 ou 6 ans, c'était comme 2-3 fois plus cher. Mais il y avait une révolution, je dirais, il y a 4 ans, 3 ou 4 ans. Et là, tout à coup, il y avait des grands acteurs qui étaient introduits dans le secteur, les grandes compagnies de oil and gas. Et eux, ils ont transformé le secteur offshore dans l'espace de 2 ans. Et on a vu, il y a comme 2 ans ou 3 ans, on a commencé de voir des projets offshore en Europe qui ont des coûts de génération qui sont comme moins de 5 ou 6 cents du kilowattheure.
Wow, vraiment.
Et c'était pour moi, ça m'a étonné. Moi, j'ai pensé que, c'est l'offshore resterait pour toujours quelque chose qui est plus cher, mais maintenant c'est le constat des experts que le prix de offshore d'ici 5 ans ou 5 ou 10 ans ça sera un des sources de génération les plus compétitives, même par rapport au solaire et onshore wind et même des plantes thermiques. Donc, et même on voit, il y a des plans qui sont dévoilés en Europe le offshore va compter parmi les sources de génération les plus importantes d'ici une quinzaine ou vingtaine d'années. Donc, et pour nous, du côté du Banque mondiale, ce qu'on a fait en réponse, on a vu on a constaté qu'il y avait cette révolution qui était en train de se faire il y a quelques années. Donc, on a mis en place un programme on travaille avec des pays en voie de développement, nos clients, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accélérer la croissance du secteur offshore dans leur pays. Et on a vu qu'il y a une ressource énorme dans plusieurs de ces pays, en Inde, en Vietnam, au Sri Lanka, même en Azerbaïdjan, et en Brésil, en Colombie. Ils ont une ressource très importante. Il y a des grands bénéfices qui sont liés au offshore parce que c'est un. Là, on peut avoir un projet offshore qui est de même envergure ou de même taille qu'une centrale nucléaire. Il y a des projets éoliens offshore qui sont de 2000 mégawatts, 3000 mégawatts et plus.
Wow.
Donc, oui, c'est impressionnant. Et les machines, il faut dire, et c'est incroyable. Ils ont pour une éolienne onshore typique, on a chaque pale, enfin, il y a trois pales. Donc, chaque pale mesure de 55 à 60 ou 70 mètres, quelque chose comme ça, maximum. Pour les éoliennes offshore, on a des machines là où les pales mesurent de 110 mètres de longueur. C'est-à-dire, sont énormes et ils ont des capacités de 12, 13 et même 15 mégawatts chacun. Donc, la taille et la puissance de ces machines et la sophistication technique qu'ils ont, moi, en tant qu'ingénieur, je trouve ça très intéressant. C'est extraordinaire.
Oui. Ben, écoutez, votre passion s'entend. C'est clair que ces projets d'envergure des prochaines années vont vous animer, vont vous garder occupé. Mais vous avez mentionné qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités dans les pays émergents. Ces opportunités-là pourraient être des opportunités pour les clients du service des délégués commerciaux. Et comme vous le savez, notre équipe travaille de près avec le secteur privé canadien. Donc, j'aimerais savoir comment les entreprises canadiennes devraient-elles se préparer avant de vous contacter? Et peut-être donner l'exemple de à quoi ressemblerait l'entreprise idéale qui travaillerait avec votre équipe sur des projets. Si jamais vous avez des conseils précis à nous partager, je suis convaincue que nos clients seraient heureux de les prendre.
Oui, ce que je peux dire, c'est que je travaille pendant longtemps dans l'industrie éolienne canadienne et durant le temps. À mon temps à IFC, je travaille beaucoup avec des développeurs de projets à l'international, européens, etc. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, les développeurs canadiens sont parmi les plus compétents du monde. C'est point final. Ils ont des capacités énormes. Ils ont des et moi, je suis persuadé que ils vont jouer un rôle important dans le développement du la filière éolienne dans les pays émergents et sur le plan onshore et sur le plan offshore. Donc, et pour moi, c'est nous on fait le financement des projets, mais je dirais c'est on fait pas vraiment on fait le financement des projets, mais lors de notre processus de due diligence, ce qu'on regarde le plus proche c'est le sponsor, c'est la compagnie, c'est le développeur. Donc pour moi, d'avoir une bonne relation avec les développeurs et de savoir comment ils voient les choses, comment et c'est quoi leur façon de travailler, pour moi, c'est très important. Donc, la première étape, c'est toujours le contact. J'adore avoir des entretiens ou d'avoir des réunions avec les développeurs pour parler un peu de nos intérêts communs parce qu'en fin de compte, nous, on leur finance, on finance leur projet, donc notre succès, c'est lié au succès de ces développeurs. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on parle des projets spécifiques, on aime bien voir les détails et le devoir que le développeur a fait avant dans ce projet-là. Donc, s'ils arrivent avec un plan bien défini, ils ont fait des prises de mesure de vitesse de vent sur site, ils ont eu des bons engagements avec les communautés, ils ont pris soin dans l'élaboration de leur plan environnemental, immédiatement ça se voit. S'ils sont sérieux, on voit immédiatement qu'ils savent bien leur travail. Donc, sur tout ce qui est le offshore, c'est la taille de ces projets, ça le rend pas mal difficile. C'est encore une autre chose de développement de ces projets. Ça prend des millions de dollars pour faire, même pour avancer le projet au niveau que ça peut être construit. Donc, mais là, enfin, il y a des bonnes compétences aussi. Il y a un des développeurs les plus importants dans le offshore, Northland Power, qui est basé à Toronto. Ils savent super bien leur travail, puis ils sont très sérieux. Donc, Oui, j'encourage tous les sociétés de me contacter directement pour parler de ce qu'ils fassent dans les pays émergents. Puis et ça commence toujours avec une relation, c'est que parce que comme j'ai dit, notre investissement c'est plutôt dans le sponsor et dans la compagnie que dans le projet.
Parfait. Bien, écoutez, pour aider les entreprises justement à bâtir cette relation productive et puis bien préparer, le message est très clair que vous avez lancé. Pour travailler avec AFC, il faut faire ses recherches, il faut avoir fait ses devoirs. Je pense qu'une des personnes les mieux placées, ce sera notre délégué commercial dédié, Fahim Noor Ali, qui est basé à Washington. Je vous remercie beaucoup, Sean, pour cet échange.
De rien, c'est un plaisir. Enfin, j'apprécie l'opportunité de parler de ce secteur et d'un sujet je suis très motivé par tout ça. Donc, si je peux faciliter l'entrée des, enfin, le travail des sociétés canadiennes dans le secteur éolien, je suis à votre service.
Excellent. Et moi, je suis convaincue que votre expertise pourra orienter certains de nos clients actifs déjà dans le secteur éolien, mais aussi ceux qui sont intéressés à faire affaire avec IFC. Donc, alors voilà ce qui termine notre épisode. Je remercie tout le monde pour votre écoute et je vous encourage à continuer à nous envoyer vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour notre prochain épisode de Comprendre le financement climatique. Merci.